Think Tank.
Zennlustig.
Reflexion. Sport und Staatsbürgerschaft.
Sport à Obtiensti.
Euradio Nantes vous présente Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne.
Bienvenue sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du think tank Sport et Citoyenneté. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la responsabilité sociale des entreprises et des clubs dans le sport. Cette émission sera animée par Julien Japper, directeur du think tank, et moi-même, Inès Boutard. Nous recevrons comme invité sur le plateau Laurent Thiol, président de Sport et Citoyenneté et du club de football de Créhenem. Yvan Saillard, directeur de communication chez ERDF. Gaël Pelletier, président du HBCN, donc Handball Club Nantais. Et Aurélien François, qui est un doctorant à l'Université de Bourgogne, au laboratoire de sociopsychologie, qui est auteur du livre, co-auteur d'ailleurs, du livre Sport et RSE, vers un management responsable.
Merci beaucoup Inès, très heureux de vous retrouver pour notre émission Sport et Citoyenneté. Un débat qui, j'espère, va être sans tabou aujourd'hui autour de la responsabilité sociale des clubs et des entreprises. On va essayer de se demander en quoi le sport entre-t-il dans la politique RSE. Alors, on va beaucoup parler de RSE, mais vous avez bien compris que c'est responsabilité sociale des entreprises. On essaiera de définir aussi ce concept. On va se demander comment inciter les clubs pro à insérer une véritable politique RSE. On va même se demander si c'est pas leur devoir, surtout lorsqu'ils ont des subventions publiques en faveur de l'intérêt général, de proposer ce type d'action. Et puis, on va aussi se demander la place réelle qu'accordent les entreprises à cette RSE. En quatre parties, donc une première partie sur les entreprises et la RSE, une seconde partie sur les organisations sportives et la RSE en France, et puis on élargira aussi, puisqu'on est sur Euradio Nantes, à l'Europe, et on se demandera avec le président du club de Créhenem belge, qui est aussi notre président Sport et Citoyenneté, on est heureux de le recevoir pour la première fois, est-ce qu'il existe une RSE un peu différente dans d'autres pays, et est-ce que, c'était le titre du livre de notre doctorant Aurélien François, est-ce que la RSE peut aller vers un management plus responsable? Alors, on va essayer de commencer par une définition, peut-être. Moi, j'en ai une, mais je vous solliciterai sur cette définition. La responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leur activité et dans leur interaction avec les parties prenantes sur une base volontaire, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Saillard ?
Alors, c'est un domaine qui, effectivement, concerne au premier lieu les grandes entreprises comme nous. Hein. Alors, en deux mots, donc ERDF, filiale d'EDF, en charge de la distribution d'électricité, 36 000 personnes en France, et je dirais qu'on est dans les 37 millions de foyers français qui ont, ou d'entreprises qui ont l'électricité. Donc un service public avant tout, hein, même s'il est au cœur de l'organisation plus libérale du marché de l'énergie mis en place par les directives européennes de début des années 2000. La gestion du réseau de distribution, c'est un service public de premier plan, hein. Et donc faire en sorte que chacun puisse avoir accès à l'électricité à un prix acceptable et dans les mêmes conditions sur le territoire français, c'est la mission première de RDF. Donc, un service public industriel, entreprise de main-d'œuvre, avec des infrastructures sur tout le territoire, eh bien, effectivement, elle est concernée par les questions de responsabilité sociale des entreprises. Alors, même si le domaine, pour les grandes entreprises comme nous, est tellement énorme qu'il va encore nous falloir un certain nombre d'années pour en prendre la dimension dans toute sa, notamment au regard des normes, au regard de l'évolution du droit, etc. Il n'empêche que je peux citer un certain nombre d'exemples.
Oui, alors très concrètement, voilà. On a bien compris et on connaît bien votre société, puisque effectivement souvent on est client chez vous, et peut-être qu'on attend encore plus même des sociétés comme vous sur cette question de la RSE. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner donner et à donner concret à donner aux auditeurs sur cette question.
Alors sur l'aspect sur le plan environnemental. Premièrement, on a des actions historiques de, par exemple, de protection de la faune, en l'occurrence des oiseaux, aux abords de nos ouvrages, en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années et qu'on poursuit. Hein. On commence à faire des bilans carbone de nos chantiers, hein, et donc à s'orienter vers des techniques de construction, d'enfouissement de lignes économes en gaz à effet de serre.
Alors là, on est plutôt sur des thématiques assez générales où encore une fois, on vous attend.
Oui.
C'est vrai qu'on est dans l'émission Sport et Citoyenneté.
Voilà,
donc,
je vais y venir.
Je savais que vous alliez y venir.
Voilà.
Mais je me permets de vous inciter aussi à développer certaines actions dans le domaine du sport. Et je sais que votre société est très active, en particulier sur les questions de handicap.
Voilà. Alors, effectivement, le domaine du handicap, la politique handicap, et quelque chose de a été marqué par une signature d'un accord d'entreprise signé par toutes les organisations syndicales en 2009, qu'avec un certain nombre de volets que je détaille pas, hein, appel aux établissements protégés, embauche de 100 personnes handicapées par an, également des personnes en apprentissage, et donc le choix de RDF a été de donner une dimension communicante, hein, et d'incarner cette politique handicap au travers d'un sportif, hein, au travers d'un sportif qui vise à démontrer que le handicap c'est aussi un facteur de réussite, en tout cas ça n'est pas antinomique, hein, et qu'au travers d'un sportif handicapé,
alors on peut le citer,
c'est Damien Seguin, qui est un skipper originaire de la région nantaise, hein, on est chez lui ici, hein, donc skipper paralympique, puis médaille d'or en haltène en 2008, médaille d'argent à Pékin au dernier JO, et également, ce qui était extrêmement impressionnant, également compétiteur dans les courses transatlantiques parmi les valides, hein. Et donc un sportif qui a conquis de haute lutte, parce que ça n'a pas été évident pour lui, le droit de concourir contre des valides, et qui a obtenu des succès sportifs impressionnants, puisqu'il a été 10e de la route du Rhum en solitaire et récemment 2e de la Transat Jacques Vabre. Donc
pourquoi avoir choisi cette thématique du handicap? Est-ce que vous connaissez l'origine de l'histoire un petit peu?
Oui, alors c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la thématique du handicap, c'est lié au fait qu'on est une entreprise avec beaucoup de personnel d'exécution et de maîtrise pour lesquels le risque au travail est quelque chose de réel. Hein. Et donc, très concrètement, le handicap dans des équipes de travail, c'est une réalité de tous les jours, parce que on a des métiers manuels et ils sont très nombreux. Donc, la politique de handicap pour une entreprise de service public et de main d'œuvre comme nous, c'est central. Ensuite, le choix qui a été fait, ça a été justement et ça c'est un choix de notre DRH, hein, de dédramatiser et de positiver. Je dirais, tout se résume dans les valeurs qu'on porte autour de ce partenariat, solidarité et performance. C'est-à-dire de dire, on est solidaire des personnes handicapées, mais en même temps, la personne handicapée, ça n'est pas que de la solidarité, c'est aussi de la performance. Voilà. Donc c'est
compris.
Ça le message.
On a bien compris ce message. Bonsoir Aurélien François.
Bonsoir.
On a l'impression, en écoutant Monsieur Saillard, qu'on est face à une bonne pratique. Vous qui êtes chercheur sur ces questions, d'ailleurs, avec deux membres de notre comité scientifique, Emmanuel Bail et Jean-Loup Chapelet, qu'on salue aussi ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là, on n'est pas face à une bonne pratique?
Si, complètement, puisque effectivement le handicap est une thématique couramment abordée dans le cadre de la RSE. Et puisque vous nous demandiez en introduction, en fait, effectivement, enfin déjà définir la RSE en soi, c'est un travail assez complexe parce que moi je vais l'aborder de manière universitaire, enfin si vous me le permettez, mais
oui, vous êtes là pour ça, on vous attend là-dessus.
Effectivement, la RSE, ben, c'est le concept de corporate social responsibility en anglais et qui a été donc traduit littéralement de la sorte en français, et c'est un concept en fait qui est assez peu significatif, notamment dans le cadre des organisations sportives, parce qu'il est clairement corrélé au monde de l'entreprise. Il est assez réducteur en soi, parce que c'est vrai que traduire corporate social responsibility par responsabilité sociale d'entreprise.
En quoi c'est réducteur? Bien,
effectivement, c'est peut-être omettre certains côtés de la RSE, parce qu'en fait, le mot social en anglais signifie beaucoup de choses, et en français, finalement, il est assez réducteur. On comprend souvent par social les relations qui peuvent exister entre un entrepreneur et puis ses salariés.
Alors qu'est-ce qu'on oublie concrètement?
C'est pour ça, d'ailleurs, le mot sociétal est arrivé dans la langue française là pour justement un petit peu élargir le concept de RSE. De même que corporate, hein, normalement, c'est vrai que la RSE s'applique au cas des grandes entreprises, et finalement, il est assez peu mobilisé dans le cas des PME.
Alors, ça semblait très intéressant, mais j'ai l'impression qu'on a perdu Aurélien François.
Nous allons peut-être passer à la pause musicale.
Ce serait une très bonne idée.
Never leave you behind or treat you unkind. I know you understand. Oh, oh, oh. And with a tear in my eye, give me the sweetest goodbye that I ever did receive. Pushing forward and arching back. Never leave you behind or treat you unkind, and I know you'll understand. Yeah, 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 yeah. And with a tear in my eye, give me the sweetest goodbye that I ever, ever, ever did receive. Pushing forward and arching back.
Et citoyenneté.
Oui, Aurélien François, doctorant à l'Université de Bourgogne, qui nous expliquait peut-être qu'on avait une définition un peu réductrice en France, et en particulier même en essayant de traduire les notions de responsabilité sociétale des entreprises. Alors, dans le monde de l'entreprise, peut-être, si on va encore plus dans le monde du sport, on a la chance d'avoir Monsieur Gaël Pelletier, qui est président du Handball Club de Nantes. Et j'imagine que le HBCN est une entreprise aussi.
Le HBCN est une entreprise, effectivement, puisque nous avons un certain nombre de salariés, 27 en l'occurrence, et que nous avons exactement les mêmes contraintes que toutes les entreprises françaises. Juste un petit mot, on dit handball sur une radio européenne, c'est allemand, donc on dit handball.
Ah là là, là je me suis fait tacler. Et on tacle aussi en handball ou
non, c'est interdit. Non.
Ok, merci pour ce petit tacle. Handball Club de Nantes. On va essayer de se demander ensemble, Monsieur Pelletier, justement, puisque vous êtes une entreprise et une entreprise du monde du sport, quelles sont, vous, vos actions? Est-ce que vous vous sentez responsable aussi d'autres questions, de questions citoyennes, de questions environnementales, de questions éducatives, de questions d'insertion, de questions de reconversion de vos joueurs, de vos joueuses?
Alors, on se sent responsable, on se sent d'autant plus responsable qu'on se doit souvent de montrer l'exemple à travers l'excellence de nos sportifs. Et donc, on travaille sur ce thème de la citoyenneté. Et c'est vrai que votre intervenant faisait une différence entre social et sociétal. Et c'est vrai qu'au HBC Nantes, on est plus dans le sociétal, dans le sens où on a pris 5 thèmes concernant la citoyenneté et qu'on essaye de développer au quotidien dans la vie de notre club. Alors ces 5 thèmes sont le développement durable, tout ce qui a trait au tri sélectif. On essaye de travailler aussi avec les personnes en situation de handicap. On travaille sur la mixité sociale et enfin dans les écoles.
Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu les actions que vous faites sur ces 5 thématiques?
Alors concernant le développement durable, ce sont des actions qui se veulent très concrètes. Hein. C'est par exemple l'incitation au covoiturage. De la même manière, concernant nos joueurs, quand c'est nous qui sommes en charge de leur logement, on essaye de trouver des logements qui sont à proximité immédiate de la salle ou au pire qui sont à proximité d'un coéquipier, de manière à ce qu'ils puissent s'arranger ensemble. De la même manière, pour tout ce qui est déplacement plus lointain, on utilise les cars et on a des partenariat avec la TAN pour les actions auprès des jeunes. Concernant le tri sélectif, on essaye de travailler avec des fournisseurs éco-responsables et de n'avoir que des produits consommables recyclables ou réutilisables. Au niveau des personnes en situation de handicap, on travaille avec la ville de Nantes dans le cadre de la rénovation du palais des sports pour améliorer les conditions d'accueil des personnes à mobilité réduite. Et de la même manière, on a pour la première fois cette année créé une animation en direction du sport adapté avec un match de hand-fauteuil en ouverture d'un match de notre équipe première, ce qui était une première pour nous et une première pour eux puisqu'il y a que peu de clubs et c'était intéressant d'utiliser la vitrine du HBC Nantes et de son équipe première pour mettre en avant cette action. Concernant les quartiers de la ville de Nantes, on y travaille depuis très longtemps. On a eu une action qui a maintenant 4 ans, mais on est dans les quartiers depuis pas la création du club, parce que le club c'est 53, mais depuis néanmoins une bonne vingtaine d'années, on a des actions dans les quartiers. Nous-mêmes, HBC Nantes, on est issu du quartier des Dervalières cette action de Baltois à Nantes met en relation les joueurs professionnels et les enfants des quartiers, et c'est une animation qui tourne dans 5 quartiers 10 sensibles de la ville de Nantes et qui se termine avec un tournoi interquartier sur le terrain des professionnels, et on leur donne aussi la possibilité d'assister à un match de joueurs professionnels. Et enfin, des actions dans les écoles où on fait la promotion du sport et plus principalement d'une autre, bien évidemment.
Merci beaucoup. On a récupéré Aurélien François, je pense. Oui. Aurélien François, vous nous expliquiez qu'il y avait déjà un problème de définition dans cette question du RSE. Dans vos travaux, vous décrivez aussi un cadre juridique imparfait, cadre juridique qui pourrait, selon vous, souvent, parfois, constituer un alibi pour les clubs. À écouter Monsieur Gaël Pelletier dans le monde du handball, oui. J'ai pas l'impression qu'on soit face à un alibi.
C'est vrai que quand là j'entends parler, parce que bon, j'ai pris la discussion en route, effectivement j'ai l'impression que c'est plutôt une pratique intégrée là dans le cas du hand à Nantes. Quand je parle de cadre juridique imparfait, en fait je fais référence au cadre des missions d'intérêt général qui en fait depuis 99 chaque club sous en contrepartie des subventions qu'on lui accorde est normalement censé faire un certain nombre de missions d'intérêt général. Ces missions étant essentiellement tournées autour de la formation, mais aussi de l'intégration, de la cohésion sociale. Et c'est vrai que quand j'entends parler Monsieur Pelletier de Nantes, j'ai l'impression que c'est plutôt intégré, alors que pourtant, quand on se plonge dans ce que font effectivement les clubs sportifs professionnels dans mon cas, on se trouve effectivement confronté parfois à des alibis, comme je dis, et finalement, en l'échange des subventions accordées, il y a très peu d'actions concrètes menées, ou alors des sommes parfois exorbitantes par rapport aux actions concrètes menées, comme des délocalisations d'entraînement dans des villes autour de la ville principale, par exemple, qui ne justifient pas, par exemple, quelques milliers d'euros de données juste pour participer à des matchs d'exhibition ou des choses comme ça.
D'accord, vous parlez plutôt de montage financier, d'avantages fiscaux, vous êtes assez critique quand même quelquefois. C'est une réalité en France, ça, ce que vous décrivez?
Moi, j'ai le cas concret à Dijon. Effectivement, on m'a par exemple donné cette feuille qui justifiait des subventions où, en face de montant, on avait réellement des choses qui, pour moi, soit ne tournaient pas autour de la responsabilité sociale, ou qui était vraiment très effleuré, et c'est vrai que là-dessus j'ai eu un regard critique, ça a été un petit peu un ancrage du coup de mes travaux doctoraux, de partir justement de ce point-là, parce que de toute façon, enfin, il y a eu un rapport des comptes qui a été fait justement par rapport à ces missions d'intérêt général, un rapport des comptes donc de 2009 qui justement met en évidence ce problème d'évaluation des missions d'intérêt général. Et parfois, c'est vrai que c'est détourné de sa finalité première. Souvent, les clubs s'en servent également pour de l'exhibition et puis une façon de se montrer et un peu de publicité, plus que vraiment de la
responsabilité sociale. Peut-être dans certains sports aussi, Monsieur Pelletier, vous vouliez réagir.
Oui, pour aller dans votre sens, en fait, c'est vrai que on n'est peut-être pas le bon exemple, à savoir que nous n'avons aucune contrainte puisqu'on n'est pas dans des missions d'intérêt général. Le HBC Nantes fonctionne encore sous un statut associatif et c'est sa philosophie. Donc demain, quand nous aurons l'obligation, parce qu'on aura à terme l'obligation de passer en société, j'ose espérer que les dirigeants de l'époque, ça sera peut-être plus nous, je ne sais pas, mais que les dirigeants de l'époque garderont cette même philosophie et n'iront pas dans une démarche que vous décrivez et qui effectivement n'est certainement pas la bonne, qui est de faire des missions parce qu'il y a de l'argent en face, mais c'est pas la philosophie.
Mais vous avez des fonds publics aussi, hein ?
On a des fonds publics, mais qui sont pas donnés dans le cadre de missions. Maintenant, il est certain que le fait que nous fassions des missions doit certainement donner un regard favorable du financeur et des collectivités en particulier, bien sûr.
Est-ce que c'est pas une question de mentalité aussi que l'on a en France? Moi, je pense aux charity qui existent de l'autre côté de la Manche. Est-ce que finalement, on n'est pas aussi dans le domaine du sport un peu en retard par rapport à certains de nos voisins, Monsieur François?
Si, clairement, puisque la volonté de copier ce modèle qui, à mon avis, n'est pas adapté au cas français, le fait d'essayer de créer des fondations, déjà la fondation en elle-même c'est une grosse structure, donc ça veut dire que pour l'instant en France c'est réservé seulement à des gros clubs comme le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, mais c'est vrai que le fait de copier ce modèle dénote déjà une certaine absence, ou en tout cas un manque de conscience, mais en tout cas une absence de modèle au préalable en France. Donc effectivement il y a quelque chose à construire, il y a un modèle à construire et qui est pas forcément où il faudrait pas se baser forcément sur le cas le cas anglo-saxon.
Vous avez un modèle vous avez un modèle de référence dans vos travaux selon vous qui serait un peu vraiment une bonne pratique?
En fait, effectivement, on a utilisé effectivement un cadre d'analyse. Après, on a essayé de rendre des typologies à partir de ce cadre. Alors, pas des références peut-être, mais en tout cas, l'idée que les clubs peuvent passer justement outre ce que nous on a appelé dans nos travaux des pratiques cosmétiques, où en fait, les clubs s'entourent de certaines pratiques, comme le cas d'ailleurs des fondations ou des fonds de dotation ou des associations citoyennes, qui sont juste des structures en marge du club, mais qui en aucun cas ne sont des pratiques intégrées et puis ne changent réellement la logique de fonctionnement du club. Et nous, effectivement, on essaye d'inciter les clubs à aller sur des pratiques un peu plus intégrées, donc passer du stade cosmétique au stade intégré. Voilà le modèle vers lequel
on a bien compris, mais vous citez pas de pays ou de système qui serait un peu au-dessus du lot.
Non, moi
dans vos travaux vous faites souvent référence au modèle américain aussi, hein.
Ouais, effectivement.
Ouais. D'accord, c'est un modèle selon vous qui pourrait être un exemple.
Qui pourrait être un exemple, mais qui demande quand même des adaptations, parce que c'est quand même moins ancré dans les mœurs. Là-bas, culturellement, on a forcément tendance, on a beaucoup plus tendance à donner. C'est le cas un petit peu de ce qui se passe avec la fondation Bill Gates. Il a effectivement lancé une initiative qui s'appelle The Giving Pledge, où il y a des promesses de dons qui sont très élevées. Et je suis pas sûr que culturellement en France on soit prêt à ça. Donc plutôt que de chercher des structures cosmétiques qui permettraient de légitimer certaines subventions ou une certaine image ou certaines dérives, je pense qu'il y a un autre modèle à construire où il faudrait s'intéresser peut-être à des problèmes mais à la racine. Je pense à de la formation par exemple. D'ailleurs, la formation qui fait partie des missions d'intérêt général.
On pourra en reparler dans la quatrième partie de l'émission. Monsieur Saillard, il y a une fondation aussi, EDF. C'est vrai que c'est une entreprise française. Est-ce que vous sentez que sur la question de la RSE, la France est un peu en retard, ou alors au contraire, on a bien compris, ça a même été validé par le chercheur, même si on a essayé de lui couper la parole, que vous étiez une bonne pratique. Mais est-ce que vous sentez aussi qu'il y a une mentalité française qui peut être différente par rapport à certains de nos voisins?
J'ai malheureusement peu d'éléments de comparaison, hein. Ce que je peux constater, c'est que d'une part, ce que dit monsieur
Aurélien François
est exact sur la lourdeur que peut entraîner les fondations, hein, qui sont des grandes structures, et donc être une structure, une organisation, si elle est unique, qui ne permet pas de traiter toutes les situations, ça c'est certain.
Est-ce qu'il peut pas même y avoir, pardon, de la concurrence entre la fondation d'entreprise et certains autres services de communication, puisque vous êtes directeur de la communication, et qui traite des questions de mécénat? Est-ce que là on perd pas aussi un peu en efficience?
Dans la réalité de la vie, oui, un peu. Parce que dans le domaine de la RSE, et notamment nous, on le voit chez nous, beaucoup de choses viennent du terrain, beaucoup de choses viennent de la base, de réseaux associatifs, interpersonnels, etc. Effectivement, entre les initiatives de terrain et puis les projets de fondation, eh bien, il peut s'écouler du temps, il peut y avoir de la perte en ligne, etc. Ce que je voulais simplement ajouter à ce que je disais tout à l'heure, quand même, c'est de manière très concrète, nous, au travers de ce projet que nous avons mené avec Damien Seguin sur le handicap, ce que nous démontrons, c'est la force de la communication par le sport. Et ça, c'est vraiment, et sur ce thème du handicap en particulier, et ça, c'est pas à mon voisin que je vais l'apprendre, le sport est un vecteur de communication exceptionnel.
Alors, effectivement, c'est un vecteur de communication, mais là, vous me lancez quand même une perche, peut-être pas un bâton, mais une perche. Nous, on a quand même fait des études dans le domaine du handicap, et on remarque qu'en France, on n'est pas encore très très bon dans le domaine de l'accès au sport pour les handicapés. Donc, c'est d'une bonne communication, mais est-ce que vous êtes actif aussi dans ces questions un peu plus institutionnelles et de gouvernance de l'accès au sport pour les handicapés?
Alors, on va l'être justement, puisque le partenariat se construit. Alors, l'accès au sport pour les personnes handicapées, clairement, très honnêtement, je répondrais non. Puisqu'on n'est pas, directement en charge d'activités sportives. En revanche, l'accessibilité de l'entreprise et de tous les services de l'entreprise aux personnes handicapées, oui, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille au travers de ce partenariat, c'est-à-dire l'accès aux formations, l'accès à toutes les situations de travail, l'accès à toutes les manifestations de l'entreprise, l'accès à tous les sites. Cette question de l'accessibilité de la vie de l'entreprise aux personnes handicapées, ça va d'ailleurs être au cœur de ce qu'on va mettre en place dans la durée au travers de ce partenariat.
Alors, dans certains pays, les entreprises aussi prennent part à ces questions de gouvernance, ne les laissent pas que uniquement entre les mains du mouvement sportif ou de l'État. Dans une troisième partie, on passera la frontière, on ira voir le cas du club de football de Kraaijnem en Belgique avec son président Laurent Thiel et avant tout, une petite page musicale. I wanna send this one out to my vanilla ice cream chocolate pudding pie. That stayed with me in the hood, do or die. Refugee girl.
Yeah, this one goes out to my almond joy. My banana that never split. The one that stuck with me.
They call us henchmen. Before I had the bling bling, yeah. I thought I'd end up in Sing Sing. Yeah. Who would ever thought that we'd be doing our thing? I know I did a little cheating. But once I got caught, dozen of roses. You send them back and told me go to hell, but girl, you know that
you take me as I am. Even though my fam don't understand why I put that rock up on your hand,
that's 'cause you take me as I am.
Take me as I am.
Take me as I am. Even when my girls can't understand, they don't know. I choose you as my man.
Why?
'Cause you take me as I am. My man.
You're my girl.
My man.
You're my girl.
My man.
You're my lady.
My man.
You're my baby.
When I was rocking jelly,
yeah,
and had a little belly. You think I was sexy?
So sexy.
I stayed with an attitude. I admit I came off rude, but still you love me. I know I get on your nerves sometimes, and I don't know why.
You take me as I am.
No.
Even when my girls can't understand.
No.
I choose you as my man. You're the sun that shines when the darkness strikes at night.
You're the love of my life, you're my girl, you're my wife, you're my everything.
You're mine, and I'm yours. You take me like I am.
Wait a minute, can't believe you
take me as I am.
Take me as I am.
Take me as I am.
Sport et citoyenneté.
On se retrouve l'émission du think tank Sport et citoyenneté sur Euradio, la responsabilité sociale des entreprises. Le débat va continuer, mais avant, Inès, nous allons rappeler que la semaine dernière, le think tank Sport et citoyenneté fêtait ses trophées du citoyen européen d'honneur.
Effectivement, Juliane, le 27 mars dernier à Paris, nous avons récompensé les personnalités engagées dans la promotion de la citoyenneté grâce au sport en Europe. Donc chaque année, le think tank Sport et citoyenneté récompense 5 citoyens européens dont l'investissement, le projet ou encore l'idée défendue participent à la construction par le sport d'une identité européenne.
Alors on veut des noms, Inès.
Ah, des noms, mais vous allez en avoir. Donc 5 catégories. Catégorie sportive, Laura Flessel a été élue largement pour toute son œuvre. La Homeless World Cup dans la catégorie association, donc l'organisation de la Coupe du Monde des Sans-Abri qui a eu lieu à Paris l'été dernier en partenariat avec Un Ballon pour l'Insertion. Daniel Cohn-Bendit et Brigitte Dédier dans la catégorie institutionnelle. Alexandre Husting dans la catégorie scientifique. Et pour finir, la Française des Jeux qui est également notre mécène dans la catégorie entreprise, voilà.
Bonsoir Laurent Thuel, on a la chance d'avoir notre président en ligne pour la première fois sur Euradio. Vous étiez là au trophée. Est-ce qu'avant de parler de responsabilité sociale de votre club, vous voulez nous dire un petit mot sur ces trophées?
Mais je crois que c'est une bonne idée parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et il faut les mettre en lumière. Et donc quand on peut, une fois par an, consacrer des gens qui œuvrent dans l'esprit que nous défendons au sein de Sport et Citoyenneté, je crois que c'est une bonne chose.
Merci Laurent. Ce soir, on est sur la responsabilité sociale des entreprises avec la société ERDF qui fait des actions assez remarquables dans le domaine du handicap et puis avec le président du Handball Club de Nantes qui fait aussi des actions citoyennes remarquables. En Belgique, vous êtes président aussi dans vos multiples casquettes du football club de Kraaijnem qui semble être un exemple, ce club, dans l'encadrement, dans l'éducation des jeunes et surtout avec une particularité peut-être en termes d'intégration et de diversité multiculturelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Ouais, c'est un club qui représente quelque chose d'un peu unique en Belgique. C'est qu'on a réussi à rassembler un peu plus de 250 jeunes qui sont issus de 40 nationalités différentes. Bruxelles, c'est une ville multiculturelle internationale. Et nous, on est dans un quartier à la périphérie de Bruxelles, où effectivement, il y a une sociologie plutôt CSP+, mais avec en même temps pas mal de logements sociaux. Et tout ça, ça représente un mix de population extrêmement rare.
C'est le devoir d'un club de se mêler de ces questions, de faire de la citoyenneté, de l'intégration, de la diversité culturelle.
C'est-à-dire qu'un club, au départ, un club de sport, il doit faire du sport aux gamins. Hein, c'est-à-dire être en prolongement de l'école, avec un système éducatif, scolaire, qui est, on le sait, pas toujours parfait. Et nous, on essaye d'inculquer un certain nombre de valeurs à ces jeunes, notamment le respect, la tolérance. Mais de toute façon, vous ne choisissez pas la couche sociale à laquelle vous vous attaquez. Hein. Vous êtes contraint par la géographie, par la sociologie, et vous récoltez les jeunes qui veulent bien vous rejoindre.
J'ai l'impression que sur le plateau, on a le président du club de handball de Nantes, peut-être, qui a un petit désaccord.
Non, c'est pas vraiment un désaccord. Il est vrai qu'on choisit pas dans le sens où, par rapport à l'implantation de son club. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir une volonté d'aller vers. C'est par exemple la volonté du HBC Nantes que d'aller dans les quartiers et de travailler dans les quartiers, même si nous ne sommes pas implantés dans un quartier au jour d'aujourd'hui.
Est-ce que, j'imagine, Laurent, c'est quand même beaucoup de bénévoles qui sont investis dans ces clubs. Le football club de Kraaijnem, il vit de quoi? De subventions publiques?
Les bénévoles, d'abord, il y en a trop peu dans le sport. On est impressionné par le nombre de bénévoles au niveau européen. Il y en a 90 millions, dont 35 millions recensés dans le sport. Mais nous souffrons comme beaucoup, j'imagine, du manque de bénévoles parce que les gens n'ont pas suffisamment de temps à donner. Les gens sont devenus de plus en plus individualistes. Et donc, vous faites tourner une boutique comme la nôtre avec 4 ou 5 bénévoles, maximum dans l'année, toute l'année, tous les jours. Ensuite, quand vous vous retournez vers votre municipalité et que le bourgmestre, on appelle bourgmestre un maire ici en Belgique, n'a jamais mis les pieds sur un terrain de football, ce qui était notre cas, il faut lui apprendre ce que c'est que le sport, il faut lui apprendre quel est ce capital social qu'on lui offre dans sa ville avant qu'il comprenne que c'est son rôle de s'investir. Et c'est un vrai travail, je vais le dire gentiment, mais c'est un vrai travail de conviction vis-à-vis des élus locaux.
Est-ce que, j'imagine, est-ce que vous attendez aussi, alors pas sous la casquette président de Sport et Citoyenneté, parce que là on espère beaucoup en termes de nouveaux budgets européens, de nouvelles compétences que l'on a même d'ailleurs maintenant, mais en tant que président de club, est-ce que vous attendez quelque chose aussi des institutions européennes ou du mouvement sportif européen et international ?
Bon, écoutez, pour parler bien franchement, hein, moi j'ai des responsabilités européennes d'un point de vue professionnel, mais un club comme le nôtre, il vit au jour le jour, il se débrouille avec ses quelques bénévoles, s'il le peut avec la municipalité, ensuite en organisant ses propres ressources, son propre modèle économique, avec la débrouille. Alors après, ce que les institutions européennes ou le sport et les institutions sportives peuvent nous amener, je veux dire que c'est assez, je sais pas quel terme employer, mais dérisoire par rapport à ce que représente la charge de faire vivre un club au jour le jour.
Oui, mais pourtant, la citoyenneté, elle est bien dans les clubs. Elle est bien dans des actions concrètes que vous menez.
Oui, mais la citoyenneté, c'est pas Bruxelles où je travaille, je le répète, qui va nous expliquer comment faire. C'est nous qui la pratiquons, qui en sommes les artisans au jour le jour. Alors, c'est pas parce que nous allons consacrer à Bruxelles une année européenne pour le citoyen qu'elle sera m'aider à trouver les 5000 euros qui me manquent à la fin de l'année pour boucler mon budget. On en est là pour faire sortir les gamins de situations sociales dans lesquelles ils sont confrontés. Il faut leur trouver des moyens matériels, il faut leur trouver des bénévoles, il faut leur trouver des chaussures de foot à leurs pieds. C'est ça. Bon, alors après, c'est vrai qu'il y a un rôle politique, et je ne viens pas le critiquer, loin s'en faut, des institutions politiques, des institutions sportives qui doivent donner les grandes lignes, les grandes idées, les grandes valeurs à véhiculer. Mais après, quand vous redescendez à l'échelon d'un petit club, c'est tout autre chose.
Vous avez été, Laurent, aussi président d'Avasport. Donc là, j'imagine, en plus, une entreprise, une grande filiale d'une grande entreprise, mais une entreprise en elle-même, dans le domaine du sport. Les actions de responsabilité sociale des entreprises, vous avez dû y être confronté directement. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment dans la mentalité des entreprises, et peut-être même encore plus dans celles investies dans le monde du sport, cette responsabilité sociale?
Ben, nous, les entreprises qu'on a côtoyées dans le sport vraiment business, là, c'était vraiment le sport dur dans le business, c'était des entreprises qui venaient s'installer sur un sport ou un club pour avoir un retour sur investissement en sponsoring. Hein. Ça, c'était la motivation à 90%. On a trouvé assez peu, et on trouve encore, à mon avis, assez peu d'entreprises citoyennes qui viennent mettre quelques centaines ou quelques millions d'euros sur un maillot d'une équipe de foot. Leur première motivation, c'est de considérer que le sport ou le club, c'est d'abord un axe de communication, c'est un média, d'accord ? Alors ensuite, il y en a d'autres, et vous avez cité la Française de jeu, je crois, qui est un excellent exemple, qui, eux, ont une notion un peu plus équilibrée du sport et de ce média, qui n'est pas uniquement là pour renvoyer de l'image à la marque, de l'entreprise, mais qui est aussi un moyen d'investir et de s'investir en tant qu'entreprise citoyenne. Ça, là j'en conçois, bien sûr.
Monsieur Saillard, vous êtes directeur de la communication de RDF. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? J'imagine qu'en fait du sponsoring, est-ce qu'à 90%, vous y allez pour avoir un retour en termes de communication?
Non, pas en cas d'espèce, là. Et tout simplement parce que il y a beaucoup, quand même, un certain nombre d'entreprises comme nous qui ne sont pas directement dans le business. Hein, on est une entreprise de service public, on n'a pas proprement parlé de concurrents, ni de parts de marché à défendre, en revanche, on est une entreprise publique, et donc on a des vraies responsabilités.
Oui, Laurent, j'imagine que vous parliez d'entreprise, vous l'avez dit, hein, plus dans le monde du business.
Voilà.
Oui, moi, vous m'avez posé la question sur les entreprises avec lesquelles on travaille du temps de base. Ce sont des gens qui viennent pour le business. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises, notamment du secteur public, qui ont vocation à faire autre chose dans le sport que d'afficher leur marque.
Voilà.
Mais il faut quand même savoir que le sport professionnel, aujourd'hui, vit notamment à travers des investissements en sponsoring d'entreprises qui font un calcul plutôt business que social.
Comment on pourrait inciter les entreprises et les clubs qui sont des entreprises aussi à s'investir plus dans ces questions de responsabilité sociale?
Moi, je crois que les entreprises, elles auraient une carte en communication interne à jouer. À partir du moment où, quel que soit leur business, elles investissent sur un média sportif, un club, une fédération, un événement, je crois qu'elles elles ont là un outil de mobilisation de leurs salariés, très important. Deuxièmement, je crois que il faut qu'elles accompagnent leur investissement par des actions sociales dans le club où elles ont décidé de mettre de l'argent sur le club professionnel. Je crois que vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des clubs des jeunes aussi, parce que quand vous êtes des deux côtés de la barrière, je parlais tout à l'heure du club de Kreinheim, mais vous voyez des investissements colossaux à la tête du club professionnel qui ne retombent pas, qui n'ont pas de retombées, ni social ni matériel sur votre petit club. Et là, je crois qu'il y aurait une péréquation à faire, mais je suis un peu utopiste quand je dis ça. Mais je crois que c'est du côté des entreprises peut-être à l'opérer, à essayer de voir comment équilibrer leurs investissements en sponsoring entre ce volet social et le volet purement économique et visibilité.
Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à Bruxelles. Et on continuera l'émission en se demandant si la RSE peut aller vers un management plus responsable. Une dernière page musicale. I don't want you coming here. No way. No way. I can't have you staying here. No way. No way. Every time I am reminded of a good thing that we used to know, and I know you're not expecting to go on second guessing, but I think it's for the best. I don't want you coming here. No way. No way. Time I see your eyes, I want to walk with you in moonlight, and I know you're not intending to go on just pretending, but I think it's for the best.
Sport et citoyenneté.
L'émission du think tank Sport et citoyenneté est sur Euradio et vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur notre site internet sportetcitoyenneté.com. Avant de continuer ce débat, peut-être qu'Inès, vous pouvez nous dire quelques mots sur notre dernière revue scientifique.
Oui, Juliane, notre dernière revue scientifique vient tout juste de sortir il y a 2 semaines. Elle porte sur le thème du sport et de l'emploi en Europe. Donc une question qui est un peu au cœur de nos préoccupations actuellement, à savoir sur les emplois durables en temps de crise. Le sport représente 4% du PIB en Europe et plus de 15 millions d'emplois. Par contre, on constate que ce secteur est quand même toujours sous-exploité, et surtout quand on prend en compte les nouvelles tendances et les pratiques potentiellement sources de croissance et d'emplois.
Oui, c'est vrai que dans la campagne française, c'est pas un sujet fortement abordé. On va se demander avec Aurélien François, qui est toujours en ligne, j'espère.
Oui, oui.
Si sport et RSE, nous allons vers un management responsable.
Alors, je ne sais pas si on y va, mais en tout cas, effectivement, nous, on a adopté dans nos démarches une posture normative. Donc, en fait, effectivement, ce serait bien d'y aller. Il y a quand même des choses qui arrivent. Hein. Par exemple, jusqu'à maintenant, c'est vrai que les clubs sportifs professionnels, exclusivement parler pour l'instant des clubs sportifs professionnels, n'intégraient que l'aspect social dans leur pratique, l'un des 3 piliers, mais c'était assez exclusif. Et c'est vrai que de plus en plus, par exemple, on voit arriver des pratiques environnementales qui n'était peut-être pas intégré d'ailleurs au départ, parce qu'en fait la plupart des clubs ne sont pas propriétaires de leurs infrastructures, et c'est vrai que ils y voient peut-être des enjeux moindres. Mais pour reprendre ce qu'a dit un des contributeurs à un moment donné, c'est vrai que le sportif est vraiment vecteur d'une forte image, notamment auprès des jeunes. Et là-dessus, sur le rôle de l'éducation, et notamment de l'éducation justement aux bonnes pratiques environnementales, eh bien, je pense que il y a vraiment.
Alors là, on vient sur les.
Travail à faire pour y arriver.
On vient sur les questions de d'éducation et peut-être même de double formation. Nous, Sport et Citoyenneté, on porte fortement cette idée, ouais, parce que la société a les idoles qu'elle mérite. Je lisais hier dans la tribune que Karim Benzema ne voulait pas payer les 1500 euros de pension à sa grand-mère qu'il avait élevée. Donc j'imagine quand même que dans d'autres sports, les joueurs sont plus sensibles. On a parlé tout à l'heure avec vous dans le handball de tri sélectif, vraiment on vous sentait que les joueurs sont investis sur ces questions. Est-ce qu'ils ont été sensibilisés suffisamment en amont? Est-ce que leur formation intègre ces notions de responsabilité citoyenne?
Ce sont des habitudes à prendre. Nous, par exemple, pour faire prendre ces habitudes, d'abord, on essaye de les faire prendre dans le plus jeune âge de nos joueurs. On a distribué, par exemple, des gourdes à chacun des joueurs. Donc, quand les joueurs ont une licence, on leur distribue une gourde, ce qui leur permet, on fait une éducation sur l'hydratation dans le sport, mais au-delà de ça, on évite d'avoir des bouteilles qu'on va acheter à l'issue de chaque entraînement. Donc, voilà, c'est une action concrète qu'on mène, et on a cette même action vis-à-vis des professionnels. Et la première fois qu'on l'a mis en place, on l'a mis en place sur l'action qu'on a fait au sein des quartiers de la ville de Nantes, où on a fait cette même distribution à l'ensemble des enfants en présence des joueurs professionnels.
Vous parlez d'actions concrètes en termes de reconversion des sportifs de niveau. Est-ce que vous menez des actions, vous sensibilisez vos joueurs à la reconversion?
Alors, on travaille avec eux sur ces points-là. On a la chance dans le handball d'être un sport professionnel où les sportifs ne sont pas déconnectés de la vie et n'auront pas des rémunérations qui leur permettront d'avoir des jours tranquilles arrivés à 35 ans. Donc ils sont obligés de travailler sur ces questions, et on travaille avec eux, et souvent ils ont fait des études en amont, et on travaille aussi à travers notre centre de formation à ce que nos sportifs soient diplômés.
Et justement, à ce propos, est-ce que vous avez des partenariats avec certaines entreprises pour proposer justement des postes types ou clés à la fin de leur carrière sportive ?
Non, on n'a pas de partenariat où les joueurs seront assurés d'avoir un poste. D'abord parce que ça devient c'est un vrai métier comme sportif professionnel, bien évidemment, mais donc il faut de vraies compétences. Donc, il peut pas y avoir de postes qui leur sont réservés. Par contre, on utilise le réseau qu'on peut avoir pour favoriser ces reconversions, bien sûr.
On parlait tout à l'heure avec vous pendant la pause musicale, Monsieur Saillard, de l'image des sportifs dans le domaine du handisport. Alors effectivement, là aussi en termes de rémunération, je pense qu'on est un cran en dessous d'autres sports et du football en particulier. Est-ce que ces sportifs-là mériteraient pas d'être davantage sponsorisés et mis en avant aussi comme des modèles de société, en portant un peu peut-être d'autres messages plus citoyens?
Ben c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous expérimentons au travers de ce partenariat, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un vecteur de communication très puissant, et je rejoins notamment Monsieur François sur notamment la communication interne. Extrêmement.
Monsieur Thiel, notre président.
Monsieur Thiel, pardon. Nous, on utilise ce partenariat essentiellement en communication interne pour faire changer le regard des managers sur leurs collaborateurs en situation de handicap, et puis pour décomplexer tout simplement les personnes handicapées dans l'entreprise. Voilà.
Monsieur François, donc ça, c'est un management interne responsable.
Ouais, complètement. Et puis c'est vrai que là je rebondis sur ce qu'il dit. C'est vrai que le rôle des managers est crucial à mon avis dans le fait de diffuser des bonnes pratiques également. Et là où on peut voir qu'il y a quand même une évolution, c'est vrai qu'il y a quelques années, bien certains sportifs étaient utilisés uniquement à des fins commerciales, et de plus en plus on voit des choses arriver. Et je vais prendre par exemple le club de l'Élan Chalon, qui est un club en Pro A en basket, qui a intégré et de manière assez stratégique ces choses-là. par exemple, ils proposent à leurs joueurs américains, et vous savez qu'en basket, il y a beaucoup de joueurs américains qui sont sur le terrain, puisque la Ligue en autorise 4, sur 5 joueurs, c'est beaucoup. Et bien, par exemple, il y a des actions qui sont menées dans les écoles chalonnaises et aux alentours, pour justement sensibiliser à la pratique de l'anglais. Et c'est vrai que quand on a un joueur charismatique dans une petite ville qui intervient auprès de jeunes qui sont assez fans de ces gens, eh bien derrière il y a, clairement une meilleure performance des jeunes, et ça a été clairement souligné par la prof d'anglais par exemple que j'avais pu rencontrer lors de cette occasion, qui disait qu'elle arrivait à intéresser des élèves qui au départ étaient absolument désintéressés de l'anglais par exemple.
Ce cas est très très intéressant. Est-ce que vous avez aussi peut-être d'autres bonnes pratiques dans le RSE que les clubs pourraient mettre en avant?
Je reparle, enfin tout à l'heure là je vais revenir, mais sur la formation, je pense que c'est intéressant. Par exemple, l'Olympique Lyonnais a signé un partenariat avec le GDOS, donc le Comité Départemental Olympique Sportif du Rhône, pour notamment encourager l'emploi associatif local. Et ça fait partie, à mon avis, d'une meilleure évolution que peut-être l'utilisation seule de la fondation, où effectivement on parraine de manière assez substantielle certaines associations caritatives. Moi, il me semble que par exemple la formation vient directement dans leur cœur d'activité et peut alimenter un nouveau modèle qui peut-être à un moment donné sera déclinant, puisque aujourd'hui, enfin les médias mettent moins d'argent et peut-être que la bulle à un moment donné va éclater. Je pense que ce modèle d'investir dans la formation, par exemple, peut être bien. Et ça, on l'a du côté de l'Olympique Lyonnais, qui a un petit peu tourné sa veste par rapport à il y a quelques années dans le passé. Par exemple, une pratique.
Est-ce qu'on attend, Monsieur François, et peut-être on va essayer de faire un dernier tour de table ici. En plus, on est en période électorale, donc on peut avoir des attentes. Et est-ce qu'on attend de la part des pouvoirs publics aussi des mesures plus concrètes pour favoriser cette RSE? On avait Laurent Thuel, président du football club de Kreinheim, tout à l'heure, qui était assez pessimiste en disant non, finalement, nous, même du droit communautaire, des institutions européennes, on attend pas grand-chose sur le terrain. Est-ce qu'il y aurait pas des mesures quand même juridique, politique, économique, qui pourraient être de vraies lignes politiques qu'on pourrait attendre dans ce domaine?
Alors, sur le cas européen, bon, je suis pas le premier habilité, mais sur le cas français, par contre, bon, il y a déjà quand même des choses de fait. C'est vrai que c'est comme ça un petit peu que je l'introduis, mais il y a par exemple la norme ISO 26000 qui vient d'être adaptée, adopté par le ministère des Sports, ou en tout cas qui vient...
Alors, en un mot, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, pour nous expliquer ce que c'est.
La norme ISO 26000, en fait, c'est l'application de la responsabilité sociétale aux organisations. C'est en fait donner les lignes managériales aux organisations pour qu'elles appliquent concrètement leur responsabilité sociale. Et juste pour terminer, il y a aussi une stratégie nationale de développement durable dans le sport qui s'est mise en place depuis un an et qui a différents défis à relever, différents leviers d'action qui sont précisément ciblés et qui donnent de nouveaux modèles, en tout cas de nouvelles matières à penser pour les managers d'organisations sportives qui seraient intéressés pour mettre en place justement un management responsable.
Merci. Nos deux invités en plateau, est-ce que vous attendez quelque chose des pouvoirs publics français ou européens dans ce domaine?
Très précisément... pas forcément. Ce que je constate, c'est que la responsabilité sociale des entreprises, ça devient une réalité, notamment, par exemple, en termes de sous-traitance responsable pour les grandes entreprises comme nous. C'est maintenant quelque chose qui, en quelques années, a considérablement progressé. Et donc, voilà, il n'y a plus la grande entreprise qui est, entre guillemets, qui peut se permettre une certaine éthique et puis les sous-traitants noyés dans une espèce de déni. Aujourd'hui, la sous-traitance responsable, c'est un vrai sujet qu'on prend à bras le corps.
Restons optimistes alors, un dirigeant de club pour peut-être terminer cette émission avant l'agenda. Inès, que tous les auditeurs attendent.
Mais juste un vœu, que le financeur ne soit pas forcément dupe des clubs qui ne joueraient pas forcément le jeu et qui mettraient en place des actions juste pour justifier un financement.
Merci beaucoup à vous tous. Inès, l'agenda du think tank Sport et Citoyenneté.
Oui, et ce sera le mot de la fin. Le 13 et le 14 15 avril prochain aura lieu le Salon Galaxy Foot avec une intervention de Julien Jappert, justement, lors de la table ronde Le football au bord de la crise financière, le vendredi 13 avril.
Et à Paris.
à Paris, porte de Versailles plus précisément, exactement. Le 26 et le 27 avril prochain, le colloque « Le sport entre les pouvoirs privés et droits économiques » avec encore une fois Julien Jappert, il est partout décidément, sur la régulation du marché de l'information sportive qui aura lieu cette fois-ci à Aix, à côté de Marseille.
Aix-en-Provence.
Voilà, exactement.
Merci
donc,
beaucoup.
Vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur notre site internet au www.sportetcitoyenneté.com et encore sur notre blog sur Euractiv qui nous héberge, la page Facebook et notre Twitter. À bientôt.
Au revoir.
Sport à obtenstvi.
Sport und Staatsbürgerschaft.
Euradio Nantes vous a présenté Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne. Pour plus d'informations et pour réécouter ce programme, rendez-vous sur euradionantes.eu.